Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment un tourisme vertueux peut-il participer à la protection de l'océan ? Avec Sylvie Dufour.
L'océan et le tourisme responsable. À coller ces deux derniers mots sonne comme un oxymore, tant nos représentations contemporaines du tourisme côtier et maritime sont apocalyptiques. Urbanisation des côtes, bateaux de croisière bondés, tonnes de déchets laissés sur les plages. Alors, un tourisme vertueux avec l'océan est-il vraiment possible ? Voilà ce que nous allons demander à Sylvie Dufour, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université et chargée de mission mère au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors commençons par l'étymologie et l'histoire. Que veut dire « tourisme » et d'où vient cette pratique consistant à partir de chez soi, non pour migrer, mais pour aller découvrir le monde ?
Le tourisme, c'est effectivement voyager pour le plaisir. Or, la première destination touristique des Français, c'est le bord de mer. En fait, le tourisme ne date pas d'hier. Il y a 2000 ans, les riches Romains construisaient déjà de somptueuses résidences secondaires en bord de mer et ils visitaient aussi la Grèce ou l'Égypte. Mais le mot « touriste » est apparu au XVIIIe siècle dans les langues anglaises et françaises. Le mot vient de l'expression « grand tour » qui décrivait le voyage qu'effectuaient depuis le XVIIe siècle les jeunes nobles européens à travers l'Europe et en particulier pour visiter les hauts sites culturels en Italie.
Donc on l'entend, jadis il était réservé à une élite et le tourisme va peu à peu se démocratiser avant carrément de se massifier. Est-ce que vous pourriez nous retracer les jalons de cette évolution ?
Alors, les premières stations balnéaires sont apparues au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre, comme la célèbre station de Brighton, puis sur la côte normande en France. Il s'est agi d'abord d'une activité médicinale, comme à Dieppe, avec en 1776 l'ouverture d'une maison de santé. Puis il s'est agi d'un véritable tourisme balnéaire qui s'est largement étendu sur la côte normande au début du XIXe siècle. Alors, l'extension du tourisme balnéaire a été liée étroitement aux moyens de transport. D'abord, grâce à un important service de bateaux à vapeur sur la Seine, de Paris à Rouen et au Havre. Puis, par le chemin de fer, qui a eu un rôle majeur dans le succès et l'expansion de ce tourisme. Le tourisme balnéaire a d'abord concerné les élites, de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie. Elle a conduit à d'importantes transformations du littoral, avec toute une architecture luxueuse comme on le voit aujourd'hui à Deauville, Dinard ou au Touquet. Mais, à partir de 1936, et grâce aux fraudes populaires, les congés payés ont permis la démocratisation du tourisme. Et des catégories sociales beaucoup plus modestes, partant en train ou à vélo, ont pu bénéficier du bonheur de découvrir la mer. Ensuite, avec les Trente Glorieuses et l'explosion de l'industrie automobile, on a pu voir les célèbres files de voitures sur la Nationale 7 en route vers la Méditerranée. Et enfin, plus récemment, les vols low cost ont ouvert les destinations lointaines à un nombre de plus en plus grand de touristes. On est alors passé de l'expression de démocratisation du tourisme, qui est positive, à celle de tourisme de masse, qui est en fait assez méprisante et élitiste, et se réfère aux impacts négatifs du tourisme.
Alors cette massification, elle fait le bonheur de commerçants aux échoppes bien situées, mais d'un point de vue écologique, c'est un désastre avec un urbanisme qui ne respecte aucun équilibre naturel. Où en est précisément l'étendue des dégâts ?
Le tourisme, et pas seulement le tourisme de masse, peut avoir des effets très négatifs sur l'environnement et les sociétés. Aujourd'hui, dans le contexte du changement climatique, les voyages en avion ont un bilan carbone désastreux. Mais on peut souligner l'aberration écologique de la dispense de taxes sur le kérosène et d'autres dispositions qui contribuent à rendre l'avion moins cher que le train pour de nombreuses destinations. Sur place, il y a l'urbanisation à outrance qui a défiguré bien des littoraux comme le malheureux exemple de la côte espagnole. Mais cela concerne aussi, par exemple, la multiplication des marinas sur toutes les côtes françaises, démontrant que même les voiliers ne sont pas forcément vertueux. Alors la présence aussi de nombreux touristes peut entraîner un grand nombre de pollutions, depuis les déchets de plastique jusqu'aux crèmes solaires qui contiennent des perturbateurs endocriniens délétères aussi pour la faune marine. La présence de pathogènes ou la surconsommation d'eau potable. Enfin, l'arrivée des touristes peut perturber, transformer et même faire disparaître la culture locale de sociétés humaines, déséquilibrer leur économie. C'est important de souligner qu'il n'y a pas que le tourisme de masse, qu'on relie aux classes moyennes ou modestes, qui a des effets négatifs. En effet, en plus des jets privés, les yachts sont de plus en plus grands et nombreux. Dans les stations balnéaires, on voit aussi souvent des golfs, qui contribuent à la dégradation des paysages, la surconsommation d'eau et le déversement d'herbicides. Et il faut aussi citer les nouvelles destinations élitistes, comme l'Antarctique, un sanctuaire pour le climat et la biodiversité, mais qui attire un nombre croissant de croisiéristes. Et si l'on peut comprendre qu'admirer les splendides glaciers et les manchots du Grand Sud peut être le rêve de toute une vie, aller faire des records de vitesse en 4x4 sur la glace de l'Antarctique relève du non-sens. Alors après la période Covid que nous avons traversée, une réflexion générale a émergé en faveur de la sobriété, des circuits locaux de produits frais et aussi en faveur d'un tourisme très local. Mais il reste très important de pouvoir permettre à chacun et à chacune d'accéder un jour à la mer, à l'océan, qui représente un bien commun de l'humanité.
Vous nous avez quand même alerté sur les effets délétères du tourisme aujourd'hui un peu partout et dans toutes les classes sociales, mais en même temps, vous prenez l'importance pour tous d'aller à la mer, surtout pour les plus jeunes. Donc au-delà du paradoxe, est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi et surtout comment faire cette éducation à l'océan ?
Connaître l'océan, c'est en fait pouvoir l'apprécier et le protéger. Et l'expérience ne doit pas être réservée à une élite et doit être rendue accessible dès le plus jeune âge. En effet, des enfants sensibilisés, comprenant et aimant l'océan deviendront des adultes éco-responsables. Et cela concerne aussi bien les enfants qui vivent près de la mer que ceux qui en sont éloignés. C'est pour cela qu'il faut absolument multiplier les classes de mer. C'est pas parce qu'on est né dans le 9-3 qu'on n'aurait pas le droit d'aller voir la mer. Mais même ceux qui habitent près de la mer, parmi eux, on estime par exemple, qu'environ la moitié des enfants à Marseille, et en fait il s'agit des classes sociales les plus défavorisées, ne vont pas à la mer, ne savent pas nager et n'ont pas de connaissances sur l'océan et sa biodiversité. Et c'est la même situation à Los Angeles. Au bord de la mer, en plus de la découverte de la biodiversité et des écosystèmes côtiers, on peut désormais mettre en œuvre des méthodes pédagogiques très innovantes, comme les programmes de sciences participatives, qu'on appelle aussi des sciences citoyennes, qui familiarisent les enfants ou des adultes aux méthodes scientifiques et permettent de les sensibiliser à la préservation de l'océan tout en leur faisant acquérir eux-mêmes des connaissances qui serviront aux avancées scientifiques. Et le muséum, il est pionnier dans ses approches. Et là, c'est très intéressant aussi de mentionner ce qu'on appelle les aires marines éducatives, où des élèves d'une classe ont la responsabilité de la gestion d'une zone littorale en lien direct avec les acteurs et les usagers de ces milieux comme les pêcheurs ou les collectivités locales. C'est une expérience citoyenne, éco-responsable, remarquable pour des enfants. Et là, ce qui est formidable, c'est que ce concept, il a été inventé par les élèves eux-mêmes d'une classe du primaire des îles Marquises, alors qu'ils écoutaient la restitution par des scientifiques d'une exploration de la biodiversité marine dans cet archipel. C'est ainsi qu'a été créée en 2012 la première aire marine éducative aux Marquises. Et cette expérience, pleine de succès, s'est étendue et on compte maintenant plus de 200 aires marines éducatives en France métropolitaine et ultramarine.
L'éducation à l'océan, elle est donc possible et elle est cruciale, évidemment, vous venez de le dire, pour sensibiliser les plus jeunes à sa protection. Mais plus largement, Comment cultiver un tourisme vertueux qui puisse préserver la biodiversité ?
Alors, le tourisme, c'est une activité économique d'importance majeure en France et dans de nombreux autres pays. Mais l'enjeu, c'est de développer un tourisme vertueux, c'est-à-dire un tourisme respectueux de l'environnement et des sociétés locales, un tourisme qu'on peut qualifier de socio-éco-responsable, qui peut contribuer à protéger l'océan et sa biodiversité. Il s'agit d'un tourisme qui ne dégrade pas l'environnement, bien sûr, et qui est opéré en concertation et par les populations locales. Il est source d'emplois et d'activités durables. C'est par exemple le maintien d'une pêche artisanale durable et reliée en circuit court avec les restaurants et la gastronomie locale. C'est aussi le développement de nouveaux emplois de guides pour des visites culturelles et des circuits de découvertes écologiques. Il offre ainsi l'opportunité de maintenir et développer des emplois permettant de vivre au pays. Et c'est un cercle vertueux avec les acteurs locaux qui s'impliquent dans la protection de leur littoral et de sa biodiversité afin que les activités locales qui y sont liées perdurent et des touristes qui sont sensibilisés à l'océan, à ses bienfaits et à sa préservation. Un exemple dans les Antilles, c'est la mise en place en 2010 du sanctuaire Agoa pour la protection des mammifères marins. On a recensé 26 espèces, qui à la fois préserve ces espèces en danger et développe de nouvelles activités liées au tourisme, comme les excursions et les guides pour l'observation des baleines. Dans cette même perspective, le parc national marin de Guadeloupe porte actuellement avec le parc zoologique du Muséum à Paris et en collaboration avec le Mexique, un projet de réintroduction du lamantin, ce grand mammifère marin mythique qui a malheureusement disparu des côtes des Antilles. Là encore, l'activité touristique qui pourrait être développée pour l'observation de ces animaux extraordinaires contribuera au projet et à sa durabilité.
Mais pour finir, en parlant du célébrissime Mont-Saint-Michel, est-ce que vous pourriez nous raconter ce que serait un tourisme responsable qui ne se limite pas à une demi-journée en car pour venir faire un selfie les pieds dans l'eau de la baie ?
Oui, parlons du Mont-Saint-Michel et de sa baie, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et dont on célèbre justement cette année le millénaire. Il attire un très grand nombre de touristes, c'est le deuxième site visité en France après Paris. En fait, il a été une destination touristique de très longue date, avec dès le Moyen-Âge les premiers pèlerins et qui déjà achetaient des souvenirs. Il a attiré un nombre croissant de touristes et une digue avait été construite pour en faciliter l'accès il y a près de 150 ans. Et ce qui a failli contribuer à ruiner son paysage et l'écosystème de la baie en provoquant l'ensablement. Des travaux colossaux achevés en 2015 ont permis que le Mont-Saint-Michel retrouve son statut d'île. Alors aujourd'hui, l'ambition, c'est de promouvoir un tourisme durable et lent, c'est-à-dire avec une offre multiple pour des séjours plus longs des visiteurs, portant sur le mont, mais aussi sur les richesses environnementales de sa baie et de sa région. Des visites touristiques pourraient en effet inclure non seulement la visite et l'histoire de l'abbaye, mais aussi la géopolitique du golfe anglo-normand, la physique de la baie et de ses courants, l'écosystème marin avec l'observation de ses nombreux oiseaux, on en compte plus de 300 espèces, avec aussi la découverte de ces récifs construits par d'étranges vers marins, les hermelles, la connaissance de l'écosystème des prés salés, l'introduction aux activités de la pêche, de la conchyliculture, de l'agriculture locale, la gastronomie bien sûr, et, fort de l'émotion que l'on ressent dans ce site unique, la sensibilisation aux impacts des changements globaux et aux enjeux de la préservation de l'océan. Un tourisme vertueux et non élitiste est un enjeu et une chance pour l'avenir.
Il y a une vraie urgence à ralentir nos voyages et de même façon qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, il faut imaginer les touristes vertueux. Merci beaucoup Sylvie Dufour.
Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sylvie Dufour, directrice de recherche émérite au CNRS, directrice adjointe de l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université et chargée de mission mère pour le Muséum National d'Histoire Naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum National d'Histoire Naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « pour que Nature Vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.